Salut les marques et salut les smarts et bienvenue dans ce nouveau numéro du supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le show bleu de la WWE, SmackDown Live. Je suis Yerem et je suis accompagné, alors que j'ai le retour son qui part en même temps, de l'ami Amiral. Salut Amiral.
Salut Yerem, salut tout le monde.
Alors nous sommes en direct hein, sur YouTube pour ce supplément SmackDown, il est 12h30 environ, n'hésitez pas à participer hein, sur le chat en direct, c'est l'amiral qui fait un petit peu le community manager de façon assez naturelle, donc si vous avez des choses, partagez vos tops, vos flops, également vos questions ou vos théories du complot sur cet épisode de SmackDown qui avait donc lieu le 12 septembre 2017, on est déjà en septembre et oui, ça va très très vite.
Au fini menu, l'été.
Fini l'été, c'est incroyable, ouais, oui, le temps n'est pas forcément au beau fixe. Nous allons voir ça puisque au menu, je vous l'annonce, Kevin Owens souhaite un tête-à-tête avec Vince McMahon. Rusev est la honte de la famille. Shinsuke Nakamura fait caca. Les New Day brisent des tables pour briser des records et James Ellsworth est en chien. C'est Kevin Owens qui... Ah, j'ai bien écrit mon petit résumé.
Ah, voilà. La dernière phrase sur
le bac en chien. Si vous avez vu cet épisode,
avant du rêve.
J'espère, effectivement, vous aurez compris toutes les petits clins d'œil, les allusions que j'ai faites lors de ce menu. Kevin Owens qui nous souhaite la bienvenue au Kevin Owens Show. Ah, il nous explique hein, qu'il respecte l'autorité et que c'est même pour ça qu'il n'a pas riposté quand Shane McMahon a posé ses mains moites sur lui la semaine dernière. Pour autant, n'oubliez pas, il attaque, il a décidé d'attaquer en justice hein, tous les C-level de la WWE, tous les gens, tous les employés hein, de la WWE. Bon, bon. Et dorénavant sur le network, ce sera le Kevin Owens Presents Kevin Owens Show starring Kevin Owens. Première mesure, donc il nous annonce des mesures, les premières mesures qu'il va prendre. Alors évidemment, hein, c'est des licenciements, une vague de licenciements économiques qui s'abattrait sur la WWE. Et le premier qui en ferait les frais, ben évidemment, c'est Sami Zayn. Et oui, hein, l'ami détesté, Sami Zayn serait donc viré. Après, il annonce qu'il fusionnerait Byron Saxton et Tom Phillips, en fait, les deux commentateurs, hein, les deux tiers des commentateurs du show bleu, qui porteront tous les deux le même costume, puisqu'ils disent tellement la même chose qu'on les confond, qu'à quoi bon leur payer deux costumes. Et évidemment, pour s'attirer encore plus de hits, là j'en pouvais plus, j'étais effaré devant mon écran, il annulerait notre show préféré, les Fashion Files, cancelled, annonce-t-il.
Ouais. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les gens aiment. Je l'annule.
Voilà. Donc c'était bien vu. Hein, Kevin Owens qui a toujours le don, hein, le chic pour réussir à manipuler la foule comme il l'entend. Il nous connaît bien. Il reste une personne à qui Kevin Owens aimerait s'adresser. Hein, et évidemment, c'est McMahon. Donc Mr. McMahon. Donc il l'interpelle, mais ce n'est pas la musique du père qui retentit. C'est la musique de Shane. Mais ce n'est pas Shane qui apparaît. C'est Dolph Ziggler, eh oui, Dolph Ziggler, hein, vous n'oubliez pas sa nouvelle gimmick de cosplayer. Hein,
c'est ça, c'est un cosplayer.
Voilà, je sais pas. La Paris Manga, c'est bientôt, non? Où c'est passé, je ne sais plus.
C'est bientôt, ouais. Voilà. C'est du moins.
Tu y seras, toi, Amiral?
Ouais, j'y passerai, ouais.
Ah, voilà, si vous croiserez peut-être l'amiral.
C'est samedi.
Derrière ses lunettes fumées et sa cigarette électronique. Je sais pas si c'était
normal. C'est ça.
Dolph Ziggler, donc, voilà, qui s'amuse. Ça fait un peu rire Kevin Owens, hein, il apprécie, hein, de pas être le seul petit con du show bleu. Voilà, on a deux petits cons, là, qui sont réunis. Bon, voilà, il se salue, il se fait un petit check à distance. Hein,
mais... Ouais, j'avais bien lui dit, oui, c'est bien que tu utilises cette musique, puisque plus personne n'utilisera, donc autant qu'elle serve à un truc.
Ah, c'était plutôt parfait. Bien vu. Ladies and gentlemen, Dolph Ziggler. C'est Daniel Bryan, ensuite, qui arrive. Il débarque pour rappeler que c'est lui hein, qui drive le show, c'est Daniel Bryan, le boss, quand même. Kevin Owens lui propose de devenir... le technicien de surface, comme on dit dans le jargon professionnel, hein, janitor. Donc il a un job pour lui, hein, donc c'est l'homme de ménage. Daniel Bryan lui répond que lui, ça lui ferait pas de mal à Kevin Owens, c'est un peu de travaux manuels. Voilà, hein, sur la, pardon, sur Kevin Owens. Surtout, il annonce à Kevin Owens que s'il était lui, il serait pas si impatient de ça, d'entendre ce que McMahon, Mr. McMahon, a à lui dire. Et ça se termine comme ça. Bon, l'ami amiral, qu'est-ce que tu as pensé de cet opening?
Bah, bon opening qui nous tease l'arrivée de McMahon qu'on sait, hein, que Vince va être dans l'épisode, on le sait depuis la fin du SmackDown la semaine dernière, donc c'est bien qu'il rappelle ça et qu'il nous l'annonce, que ce soit pas de suite en entrée, mais qu'il nous fasse faire sentir la hype du truc et qu'on anticipe ça. J'ai bien aimé que Kevin Owens, dans ses premières mesures, comme tu disais, bah, la première c'est effectivement Sami Zayn, hein, même si actuellement ils sont pas en peine feud, c'est bien qu'ils n'oublient pas, hein, que ce soit eux ou les bookers, que effectivement c'est quand même ils sont ennemis éternels, donc c'est bien qu'il y fasse mention. La petite apparition de Dolph Ziggler, voilà, ce qu'on disait la semaine dernière, moi j'aimerais que le nouveau gimmick de Dolph Ziggler soit comme ça, qu'il vienne quand on l'attend pas, et là c'était juste parfait, quoi. Les gens ont popé, genre ah, il y a Shane qui est là, ça va être la confrontation, ben non, perdu, c'est Dolph, et ça c'était bien, ça je trouvais que c'était vachement plus efficace que ce que Ziggler nous avait fait la semaine dernière. Donc ouais, un petit segment d'ouverture avec l'aisance au micro et le bruit au micro qu'on connaît de Kevin Owens pour nous faire mourir d'impatience d'avoir la vie de Vince sur toute cette affaire. Donc plutôt bonne intro.
Ouais, moi je te rejoins, effectivement, c'était vraiment bien foutu et je suis d'accord avec toi. Dolph Ziggler, c'est exactement comme ça qu'il doit faire ses apparitions de cosplayer. C'est assez inattendu et ça sert le show, quoi, et ça crée des interactions entre les différentes storylines et les catcheurs. Malheureusement, on verra un peu plus tard qu'il ne s'est pas contenté de cette première apparition. AJ Styles et Ty Dillinger, ce soir, on est à Las Vegas, hein, d'ailleurs, c'est le Sin City SmackDown Live, c'était pas n'importe lequel des SmackDown Live.
Non, et ce soir... d'ailleurs, ça avait un peu un allure de mini pay-per-view, finalement, parce qu'ils avaient fait des graphiques spéciaux... Ouais. Las Vegas, ouais. Il y a effectivement nombreux matchs de titres, donc c'était un mini PPV mensuel ce Las Vegas. Ouais. Hein, donc,
là, ça faisait penser un peu sur le network que tu as les lives à Tokyo ou les spéciales, ouais. Je sais pas comment ils appellent ça, spécial event ou quelque chose comme ça. Effectivement, il y avait vraiment, d'ailleurs ce soir, il y a 3 matchs de championnat. Donc,
c'est ça. Il y avait que le titre mondial qui n'était pas disputé, mais sinon tout était là, quoi.
Alors, on va commencer par le premier, si tu veux bien, hein, le US Allez. Title. Alors, le fameux US Open Challenge. Alors, c'est façon AJ Styles, c'est-à-dire que c'est du Open c'est Challenge, mais sur réservation. Faut réserver 3 mois à l'avance maintenant. C'est comme dans les restaurants 5 étoiles, sur la fourchette. Faut pas déconner. Alors, AJ Styles et Ty Dillinger, donc, ils se mettent sur la tronche. Hein, ils échangent coup pour coup dans un match à toute allure, mais au milieu du chemin.
À mi-chemin
du combat. intrusion, mesdames et messieurs, du baron qui est accueilli par un phénoménal forearm à l'extérieur du ring. Donc voilà, intervention du baron un petit peu sous forme d'échec. Ty Dillinger en profite pour tenter le roll-up et il parvient à placer donc son tie-breaker, hein, son finisher pour le compte. Alors mesdames et messieurs, j'ai regardé mon chrono de 2,95. Hein.
Ouais, on était vraiment à la seconde. Hein.
Oh là là, mon cœur, vraiment, je te dis, mon cœur a sauté. J'étais à fond dedans et ils ont réussi vraiment à m'embarquer sur ce near-fall. Assez incroyable. Mais malheureusement, c'est la fin du rêve pour Ty Dillinger qui tape pour la seconde fois, hein, dans la prise de soumission de AJ Styles. Serrage de pogne entre gentlemen à la fin. Malheureusement, ou heureusement, ça dépend de quel côté on se place. Éclatage en règle par le baron des deux belligérants qui nous spoil le prochain Open Challenge puisqu'il annonce que la semaine prochaine, ce sera lui, c'est son spot. Il l'a réservé sur lafourchette.com. Qu'est-ce qu'on en pense là de cet Open Challenge?
Ah bah je pense que le baron devrait bien checker dans ses mails s'il a la confirmation de réservation, parce que moi je sens venir le truc gros comme une maison, que la semaine prochaine ils sont encore là en interview backstage, genre ouais, dans quelques secondes ça va être l'open challenge, c'est moi qui vais être dedans et qui prend le titre, et qu'il y a encore quelqu'un qui s'insère. Moi j'aimerais bien, comme Ty Dillinger a fait il y a 2 semaines, voilà, qui chope la place du baron, ça serait rigolo. Outre cette blague, le match était rapide mais était vraiment vraiment très bon, hein, un très bon match de face survolté, survitaminé, avec effectivement cette presque victoire de Ty Dillinger à 0,05 secondes. C'était très 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 bien joué, on y a presque cru. Voilà, moi moi je suis content de voir Dillinger dans un match de haute volée, même si c'était pas très long, parce que voilà, ça montre effectivement un peu à tout le monde, ça rappelle à tout le monde que dans le ring il sait faire des trucs vraiment très bien, et que le baron arrive sur la fin, c'est très logique, c'est l'histoire qu'on nous raconte. Donc je sais pas si on va vraiment avoir un Baron Corbin style la semaine prochaine, on verra bien, mais bon, après voilà, que ce Top End Challenge soit avec des slots réservés, ça me dérange pas, parce que là je préfère qu'on me raconte quelque chose que des matchs random. Donc là ils ont raconté un truc en 2-3 semaines avec Teddy Dillinger, c'est très bien. Après c'est effectivement Corbin qui est sur le coup, donc voilà, je suis pas prêt de le voir et la ceinture américaine, hein, puisque je le vois pas battre AJ Styles de façon crédible. Je vois pas grand monde battre AJ Styles de toute manière, donc c'est un peu un coup dans l'eau, mais c'est un. Au moins, il nous raconte quelque chose.
Ou alors, il profite justement d'écrire une histoire. Pour l'instant, c'est un peu un plan à trois pour, au final, nous faire ce fameux triple frit au pay-per-view. Et là, le baron peut gagner sans avoir à coucher AJ Styles. Pourquoi pas, hein. En tout cas, effectivement, ils apportent pas mal de soin à cette histoire, hein. Cette ceinture vraiment est la ceinture qui a toutes les attentions des bookers et des scénaristes. Et c'est vrai que ce Top End Challenge qui est un petit peu pris en otage par deux trois types, bah écoute, ça dessert une histoire plutôt sympa, donc on pardonnera la vision qu'a AJ Styles de la Punch Challenge. On enchaîne ensuite avec une petite séquence backstage. On se demande, est-ce que tu savais toi que Rousseff était parti en vacances? Oui, je crois qu'on en a parlé la semaine dernière. Vite fait.
Je l'ai su, j'ai vu une news en fait, mais qui avait rien à voir. Il est parti effectivement réellement en vacances avec Lana en Bulgarie, hein, il me semble, hein, dans son pays ou en Europe de l'Est. Et il y avait eu notamment là qu'ils avaient fait un truc de charité pour les enfants, les animaux, et
les enfants et les animaux.
Ou les animaux, ou les deux, bac, je sais pas.
Les bébés animaux.
Ouais, il y avait des animaux et il y avait de la traite de vaches. Et en fait, Lana faisait ça en bikini. Et à un moment donné, il y a eu un bikini qui a un peu glissé. Et même le New York Reporter, enfin, un journal qui n'a rien à voir avec le catch, a couvert l'événement. On fait un article sur cet internet sur la wardrobe malfunction de Lana qui traite des vaches en bikini. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai su qu'ils étaient effectivement partis en Bulgarie. Bref.
Ah oui, d'accord. Non, mais merci pour cette. Alors là, c'est vraiment au cœur. Là, on envoie nos reporters, oui. Hein, l'amiral. Voilà,
c'est un petit côté closer et gala, mais bon, voilà, hein, c'est aussi ça l'actualité du catch.
Pas du tout au courant de tout ça. Bah, disons qu'il s'en passe des choses en Bulgarie. Du coup, Rousseff, il nous a pas raconté tout ça. Hein, heureusement que tu es là, amiral. Il nous a juste dit que lui, il a été accueilli donc, au pays, donc par toute sa famille, mais il a été accueilli comme un loser. Et oui, ça fait pas plaisir, hein, suite à cette défaite honteuse face à Randy Orton en 10 secondes, hein, il nous rappelle bien tout ça. Alors les oncles, la grand-mère, les cousins, tout le monde lui a mis la honte. C'était la grosse honte pour tout le monde. Du coup, bah, ça s'est pas très bien passé, son retour au pays, en tout cas, qui est famement parlant. Et pour se venger, du coup, il est revenu pour détruire. Alors là, j'ai pas très bien compris s'il allait détruire une légende ou s'il allait détruire... Il dit, je crois qu'il veut détruire une légende. C'est comme ça que
ouais, il dit, I must break a legend. Je dois détruire, briser une légende.
Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire juste la légende Sir Randy Orton, ou est-ce que il va s'attaquer à des légendes comme l'a fait jadis Randy Orton, c'est-à-dire s'attaquer à des Hall of Famers, quoi?
Ouais, je pense. Moi, j'ai compris ça. Hein. J'ai compris effectivement, c'est dans le trip Legend Killers, hein, ce gimmick de Orton qui massacrait des vieux catcheurs Hall of Famers dans le ring. Moi, c'est ce que j'ai compris en tout cas.
Bon, des vieux qui se font massacrer dans le catch, et on en a encore. Hein, on verra ça un peu plus tard dans la fin du show, dans notre main event. On continue avec l'ancien copain hein, de Rousseff, Jinder Mahal. Souvenez-vous, hein, ils étaient amis pendant quelques temps. C'est Jinder Mahal, c'est le Lady Minute de Jinder, donc qui débarque sur le ring et qui pour venir hein, se moquer de son futur opposant Shinsuke Nakamura. Alors c'est une petite session PowerPoint, hein. Ça y est, la WWE nous ressort les petites séquences PowerPoint. C'est longtemps qu'on en avait pas eu. Je sais pas si ça nous manquait.
Non.
Alors du coup en fait, alors là c'était assez étrange parce qu'il y a vraiment eu un décalage entre l'intention initiale, je pense, de Jinder Mahal et les réactions du public qui l'attendaient. Grosso modo, il a passé voilà plusieurs images comme ça de Shinsuke, alors des captures d'écran, des gros plans de Nakamura, qui fait toujours des gueules pas possibles, hein, évidemment, que ce soit pendant ses entrées, ses matchs, ou les moments où il est en mode berserk, là. Donc il se moquait en disant, voilà, regardez, là, Shinsuke, il a l'air constipé, là, c'est quand Shinsuke, il veut imiter Michael Jackson, et là, c'est quand Shinsuke voit apparaître Godzilla. Donc avec chaque fois avec Shinsuke Nakamura qui fait des grosses grimaces, et pendant ce temps-là les deux sbires qui sont morts de rire en faisant des caisses et des tonnes.
Ouais. Sauf mon préféré, c'est quand il dit là on dirait Shinsuke Nakamura, on dirait Pikachu qui a une rupture d'anévrisme.
Ah bon, ça, je l'ai loupé celui-là. Non mais c'était
festival.
Pourquoi pas, c'était marrant. Enfin, c'était marrant dans le genre, ça pouvait être marrant. L'idée, c'était de faire rire le public américain qui réagit à ces blagues en dessous de la ceinture. Mais en fait, c'était juste le silence, c'était le mort total dans la salle.
Ça marche pas, le mec, il se met en gros heel. Le public, il rigole pas aux blagues des heels quand on se fout de la gueule d'un face qui est over avec la foule.
Enfin, c'est ça. Tu fais la même chose dans le sens inverse, là, ça marche. Ouais. Du coup, Jinder, il s'attendait. Et du coup, tu vois, à un moment donné, il s'adresse comme ça, il prend quasiment un parti à un spectateur ringside en lui disant, ah tu vois, je vois que tu rigoles et tout.
Lol,
personne ne rigole. Et du coup, en fait, et c'est là où c'est terrible, c'est qu'il devait s'en servir ça comme pour justifier après son argumentaire de heel, où il s'adresse à Nakamura. Il n'est pas là à Nakamura, mais il s'adresse à lui en lui disant, bah regarde ce public là de gros racistes, grosso modo, si tu viens me chercher et que tu gagnes la ceinture, tu veux prendre ma place, tu subiras le même traitement que moi, de gros beaufs qui dégueulent USA, USA à tout bout de champ. Sauf que, juste ça n'a pas du tout marché. Non. Donc, c'était un peu le malaise là. Hein.
Très bizarre, très mal écrit, comme on disait, voilà, un hic qui se fout ouvertement de la gueule avec des blagues vraiment puériles d'un face, ça marche pas. Et puis en plus, pas mal au micro, c'est pas c'est pas le moderne des Maharaja, hein, c'est un mauvais film de Bollywood. Donc du coup, je sais pas ce qu'ils avaient en tête, ce qu'ils espéraient en faisant ce segment, mais ouais, ça nous montre encore une fois que mal au micro dans le ring, ça ne marche pas.
Non, effectivement, là, ils ont voulu tester quelque chose. C'était intéressant de vouloir prendre comme ça à revers le public. C'est, on en parlait tout à l'heure avec Kevin Owens, lui, c'est un spécialiste, hein, quand il sent que le public commence à l'encourager. En un mot, il va réussir à retourner public.
Ouais, mais parce qu'il est bon, c'est comme un Jericho ou un Miz.
C'était là où je voulais en venir, voilà.
C'est ça, voilà.
c'est qu'effectivement, tu peux pas faire ça si t'es pas un as du micro.
Ah, non.
Donc voilà, malheureusement, et en plus, Nakamura n'était même pas là, c'était pas le seul, hein, parce qu'on peut reparler des absents, parmesan.
Bobby Roode.
Écoute, on va en parler dans le cadre de la séquence de Dolph Ziggler, parce que...
Ça marche.
J'imagine quand même, à un moment donné, ça va se connecter tout ça. Justement, Dolph Ziggler, c'est un peu plus tard, donc il nous refait la même séquence de la semaine dernière. Hein. Je pensais qu'on le reverrait pas, parce que justement, il avait fait un opening et que ça avait plutôt bien marché. Et ben non, il revient. Alors cette fois-ci, il imite Bayley, il a imité l'Ultimate Warrior, et il nous a ressorti le même discours en disant que c'est lui le meilleur entre les rings, que tout le monde peut faire ce qu'il vient de faire, tout le monde peut accrocher des ballons, avoir des ballons qui flottent dans tous les sens.
Ouais, parce qu'il imite Bayley aussi, donc
c'est ça. Avec les ballons, il avait les ballons flottants, les petits bonhommes là qui flottent et tout.
J'ai bien aimé, à mon avis, mais un gros coup de pied dans un des Bayley buddies gonflable, ça c'était drôle.
Ouais,
le
non, mais.
Il un truc mou.
Voilà, Ultimate Warrior, il arrive, il check the rope, il était à fond. Mais voilà, donc c'est, il y a le même discours du coup. Bobby Roode n'est pas là, Dolph Ziggler se moque des mecs qui sont juste des entrées. Bobby Roode pour l'instant, malheureusement, c'est juste une entrée. Est-ce que ça va se connecter? Est-ce que ça doit se connecter? Et qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe avec Bobby Roode et tous ces mecs de SmackDown qui montent et...
Ouais, je sais pas. Alors, sur Dolph Ziggler, sur ce segment, il y a rien de plus que ce qu'on a dit la semaine dernière, donc j'ai pas épilogué, mais effectivement, là, ça fait la deuxième semaine d'affilée où il n'y a pas Bobby Roode. La semaine dernière, il y avait un package vidéo.
Mais je crois, il me semblait qu'il semaine, l'avait annoncé. Il l'avait pas annoncé en disant, genre, dans deux semaines, il viendra?
Non, je sais pas. Non. Il y avait juste eu un package vidéo pour présenter, c'est tout. Donc ouais, je sais pas. Shane McMahon a cassé la tirelire pour acquérir Bobby Roode et le faire arriver à SmackDown. Donc tu dis ok, c'est une grosse acquisition, etc. Tu montes la hype. Et pendant deux semaines, le mec, tu le fais pas venir. Alors soit Bobby Roode est blessé ou a des empêchements orc et faible que j'ignore, soit je comprends pas ce qu'il...
Bah dites-le nous au moins, dites-le nous,
ouais.
trouvez une excuse, enfin...
Ouais. Et là, effectivement, comme il y a quelqu'un sur le chat live de YouTube, chat, qui dit, ouais, ben, il y a le public qui réclamait Bobby Roode pendant le segment Dolph Ziggler, parce qu'effectivement, c'est ce qui doit se connecter. Il insiste tellement sur le fait que, oui, le public, vous êtes ingrat, moi, je me casse le cul sur, à faire du catch, dans le ring, et tout ce que vous aimez, c'est des entrées complètement, folding et n'importe quoi. Et effectivement, ça cible Bobby Roode, ouais, particulièrement. Donc, j'espère que ça va connecter, et j'espère que ça va connecter la semaine prochaine, parce que, faut, ouais, pas que ça dure.
Bah j'espère aussi, et en fait on est frustré, donc là-dessus ça marche, tu vois, le jour où Bobby Roode va vraiment arriver face, ouais, à Dolph Ziggler, le public va exulter, ça j'en suis sûr. Après derrière ils ont intérêt à assurer pour le résultat, etc. Je suis pas inquiet in-ring, mais après,
non, au niveau cash ça va être bon, mais dans tous les cas qu'il le fasse arriver maintenant ou dans 3 semaines, quand Bobby Roode va arriver, le public va exulter, donc ouais. Je sais pas, est-ce que faire créer vraiment cette attente là est intéressant,
je vais te dire un truc, c'est là où vraiment la WWE ils se plantent, c'est avec leur histoire de booking c'est même plus un mois, hein. Souviens-toi, il y a quelques années, peut-être 2-3 ans, ils avaient avoué, des scénaristes ou des bookers avaient avoué qu'effectivement maintenant ils vivaient vraiment quasiment jour le jour en termes de scénario, ouais, et de booking, parce qu'il y a un gros rythme avec tous les pay-per-view, le network, etc. Ils sont vraiment plus dans un... Puis c'est aussi comment dire, les temps sont comme ça, où on est dans l'instant, faut créer des moments, etc. Ils prennent plus trop le temps de vraiment d'écrire des grosses storylines. Ce qui est une erreur, hein, je trouve. Et là, tu te dis, finalement, l'arrivée de Bobby Roode à SmackDown, s'ils avaient eu cette idée-là avec Dolph Ziggler plus tôt, ils auraient pu la construire comme ça, toi, où effectivement, Bobby Roode serait arrivé pour la première fois face à Dolph Ziggler en ayant été
ouais,
chauffé.
Oui, je suis d'accord. Maintenant, c'est vrai que du coup, s'ils essaient de monter ça, le fait qu'ils montent la sauce avec Dolph Ziggler qui énerve le public sur 2-3 semaines à faire ses fausses entrées foirées, ça ne fera que bénéficier finalement l'affrontement, puisque avant,
oui,
cette espèce de redebut de Dolph Ziggler qui n'en est pas un, le public était un peu indifférent par rapport à son côté heel. Donc, c'est vrai qu'ils ont plutôt intérêt à le faire monter, ouais, pour que l'affrontement soit vraiment intéressant, si vraiment ils vont toujours dans la direction Bobby Roode en tant que face.
Ah bah ça c'est sûr, hein. Il a quitté NXT en 10 ans, en faisant un face turn, hein. Donc il retournait à NXT, je crois qu'il a dit maintenant c'est votre NXT ou un truc comme ça. Avant il disait que c'était son NXT, je crois qu'il a dit un truc du genre... Non, c'était pas un truc comme ça,
il a quitté NXT en perdant contre Roderick Strong.
Il a peut-être fait une vidéo backstage alors.
Ah peut-être, ouais, j'ai pas vu ça.
Il y a une histoire comme ça. Bon, affaire à suivre. Mais effectivement, vaut peut-être mieux un reboot, un redébut comme tu dis. Finalement, ça le fera peut-être pas de mal.
Ouais.
On enchaîne, alors je reviens. On enchaîne avec un deuxième match de championnat et pas des moindres, puisque c'était les New Day et les Usos qui s'affrontaient pour le rematch des Usos qui avaient repris leur titre. Souvenez-vous, ils avaient la semaine dernière annoncé leur stipulation, le Sin City Street Fight Match, en l'occurrence, vu qu'on est à Las Vegas. On l'a enfin, notre stipu dans cette rivalité. Ça démarre direct avec Kofi et Biggie qui vont sortir les tables. Mais c'est bien une chaise, hein, qui va servir de première arme quand les frangins vont exécuter Biggie après d'un gros kick avec la chaise dans la tronche. C'est assez impressionnant. On sort les kendo sticks. Il y a un moment donné, c'est Kofi Kingston qui s'en empare du kendo stick et je sais pas, il devait être vénère le jour-là parce que il a littéralement explosé, je crois, un des frangins Uso. Il a explosé le kendo stick avec, c'est toujours impressionnant. Il y a d'avoir plein d'écharpes sous les ongles, ça doit faire mal. Kofi à un moment donné, hein, qui fait le save. C'était juste avant, voilà, pour dérouiller justement les Uso dans une violence assez sauvage. Les Uso qui s'empalent tour à tour à un moment donné sur le turnbuckle, il y a une sortie assez effrayante là d'un des Uso qui loupe un petit peu sa sortie. On a eu un petit peu peur. Kofi qui écrase après Jay ou Jimmy d'un double stomp. Il se fait sécher après, il tente son leap of face là, donc son saut comme ça à l'aveugle en arrière, et il se fait carrément balancer contre les barricades là aussi un peu salement. Donc c'est un match ultra violent et ultra dynamique, avec beaucoup d'énergie. Au passage, comment il s'appelle? Xavier Woods, en fait, n'est même pas là. Hein. Il n'est même pas ringside. Il est retourné
Ouais.
sous le titre entrant dans les vestiaires. Sûrement sur une petite partie là de Maiden avec AJ Styles.
C'est ça, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Hein,
Non, c'est assez bizarre. Ça n'a jamais été vraiment expliqué.
Ouais.
Mais on en reparlera parce qu'effectivement, on arrive à la fin du match quand Big Ending de Big E s'est cassé. Il se fait exécuter là encore comme lors de leur match de pay-per-view. Là, il se prend des kicks dans la tronche. C'est assez sale. Et Kofi qui vient faire le save, il pousse Jimmy à travers la table qui était restée à l'extérieur. C'était assez impressionnant parce que moi j'avais complètement oublié cette table.
Ouais.
Et donc Big E qui replace son Big Ending et le finish à deux là de Kofi Kingston. Je sais plus c'est quoi, c'est une descente du coude, je ne sais plus ce qu'ils font.
C'est le Midnight Hour, je crois.
Midnight Hour, exactement. 1, 2, 3. Les New Day à nouveau champions, ils reprennent la ceinture. Quel match!
Ouais, très 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 bon match. On était sceptiques, on avait parlé par rapport à la stipulation. Stipulation, c'est toujours un peu foireuse, surtout qu'il y avait le côté les Usos qui sont heels, donc ils ont plutôt intérêt à prendre des trucs sans disqualification, mais en face ils sont trois, donc ça leur désavantage. Donc c'est pour ça que là, c'était bizarre que Xavier Woods ne soit pas ringside sans aucune explication. Donc c'est vrai que là, c'était un peu pour arranger le match, pour pas que ce soit trop évident que les New Day gagnent, mais c'est vrai que c'était un peu artificiel. Mais on a pas bouillé notre plaisir, effectivement, le match était bien, la stipulation était bien utilisée, il y a eu des tables d'échelle, des candlesticks, des trucs, des actions en dehors du ring, bref, c'était vraiment une très belle alchimie entre les deux équipes, hein. Et puis c'était intéressant de voir les Usos dans une stipu street fight qui colle vachement bien avec leur gimmick,
ah ouais.
Et aussi de voir les New Day un peu sortir les crocs, un peu sortir les griffes et montrer qu'ils ont ce killer instinct en eux aussi, et ouais, non, c'était très très cool. Après, c'est le résultat, bah voilà, ça va engendrer un rematch forcément des Usos contre New Day pour leur close rematch. Moi, je suis plutôt content parce que pour l'instant, les matchs qu'ils nous font sont toujours tous très bons. Hein. Le kick-off de SummerSlam était génial. Là, le match en weekly est très bon aussi. Bon, bah, ok, ouais. Moi, ça me va. Hein.
Ouais, non, ils vont continuer, effectivement. Alors, c'est vrai que bon, c'est un peu le jeu de la patate chaude. Une fois de plus, on en reparlait la semaine dernière.
Ouais.
Bon, pourquoi. Pourquoi pas, comme tu dis, vu la qualité de la rivalité et des matchs, voilà. Moi, je mets un petit peu un petit carton là sur ce booking un peu étrange quand même. Et puis Xavier Woods qui disparaît. Enfin, c'était bizarre cette histoire de stipulation. En plus, ça profite même pas aux Usos. Bon, c'est toujours un peu dommage. Mais bon, on va peut-être monter un peu en surenchère là sur avec le L in a Cell, hein, c'est ça là, hein, le pay-per-view, on est d'accord.
Ouais, c'est L in a Cell. Donc j'aime beaucoup les graphiques cette année, les graphiques sont bien réussis.
Ah, avec les têtes de mort.
Mais
et tout,
hein. Ouais.
Ah, c'est ton côté badass motard.
C'est là, ça,
Harley-Davidson.
Ouais. Mais après, oui, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire de plus finalement.
Ouais, peut-être un TLC, hein. Ouais, oui, mais.
Un TLC en Hell in a Cell, ouais.
J'en sors Hell in a Cell avec tu sais, comment ça s'appelle, Inferno Match, tu vois, avec le
ah
ring
ouais,
entouré de
le
flammes.
Ring en flamme.
Et puis
cool.
Un petit cercueil sur le côté, toi. Attends. Bon, effectivement, victoire surprenante, mais bon, continuons cette rivalité. Bah, malheureusement, tout le reste de, enfin, pas tout le reste, mais la division tag team est là en fait, puisqu'on a un deuxième match, mais c'est vrai qu'il canalise un peu la division tag team, c'est là où je voulais en venir. Pour autant, on a eu un autre match dans la division tag team, justement avec les Highbrows. Les Highbrows, ils sont là, hein. Zack Ryder et Mojo Rawley qui affrontaient le V2 de American Alpha. Donc Chad Gable et The Golden Standard, The Gold Standard. Shelton Benjamin, bon voilà, victoire hein, des American Alpha V2. Alors ils ont bien galéré sur le finish.
Ouais.
Faut un petit
on
peu.
On ne sait pas si c'est exprès pour montrer qu'ils
exactement.
Sont encore un peu rouillés, qu'ils doivent s'accorder donc Chad Gable et Shelton Benjamin, ou est-ce que c'est vraiment une mauvaise communication. Mais moi c'était un peu.
C'était effectivement assez intéressant ce que tu dis, parce que quelque chose qu'ils avaient construit, qu'ils avaient mis en avant lors de leur premier match, ça,
ouais.
C'est ce côté bon. Shelton il revient, mais c'est comme lui le mentor, mais bon il est un peu rouillé parce qu'il a plus trop l'habitude des matchs à WWE. En face on a Chad Gable qui est le petit qui lui est enfin qui a les crocs et qui est heureux et qui est enfin voilà qui veut gagner, etc. Et là effectivement sur ce finish où il veut faire son espèce de enfin c'est leur finish je sais plus comment ils
combiné,
appellent ça
ouais.
Ouais voilà combiné Chad Gable qui a à ce moment-là, Shelton Benjamin qui a un des deux adversaires, c'est Zack Ryder je crois, sur les épaules. Il est trop loin pour que Chad puisse faire le tag et il fait recul, avance, recul, à gauche, à droite.
Regarde, ouais.
Truc un peu à la vague. Donc c'était effectivement, je ne sais pas si c'était un botch, mais botch ou pas, ça peut servir l'histoire. Donc
Oui.
Bon voilà, donc affaire à suivre, chose importante. À la fin, poignée de main entre les deux équipes face, sauf pour Zack Ryder. Qui est en mode Dark Rider, quoi. Il sombre du côté obscur de la force. Il n'est pas content de cette défaite. Et donc, il repart sous les yes chants un peu du public. Hein. En tout cas, les gens étaient. Il y avait des gens qui étaient assez contents de voir Zack Ryder un petit peu snobber son pote Mojo Rawley. Donc, est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que c'est pas un peu trop tôt, un peu trop tard finalement cette.
Soyons clairs, si jamais c'est rupture des eyebrows et
Rupture
Zack Ryder,
d'anévrisme.
rupture d'anévrise de Pikachu, non, mais rupture des eyebrows et Zack Ryder qui repart en solo et peut-être un heel turn parce qu'il était pas très sympa, c'est pas le bon timing, ça sera jamais le bon timing, je pense, malheureusement, pour Zack Ryder en heel parce que vu son gimmick, à moins de le repackager complètement, ça peut pas marcher parce que le côté hype à la base c'est lui, hein, donc du coup. Le woo-woo, you know it, en heel, ça marche pas. Et même si en face, il a connu quelques succès en gagnant le match d'échelle intercontinentale à hein, WrestleMania quelques années, bon, bah,
quel moment.
j'ai peu d'espoir pour lui. Les Eyebrows, avant qu'ils se blessent, avant que Zack Ryder se blesse, ils avaient un match,
Ils avaient
title
été
shot,
contenders,
quoi.
ils avaient été
Ils avaient
contenders.
un title shot qu'ils n'ont jamais pu faire. Moi, j'aurais trouvé intéressant de un peu les remonter pour qu'ils aient enfin ce match-là. Ça marchait bien à l'époque, les Bros. Mojo Rawley seul, ça n'a pas marché du tout.
Et c'est ça, le problème c'est ça,
Donc.
c'est on a besoin de low card, d'une mid card dans la division tag team. À
Ouais.
quoi bon séparer? On a eu beaucoup de séparations hein, de duos cette année. Kevin Owens, Arthur
Soft,
Soft,
American Alpha.
Gargano et Ciampa,
Ouais.
voilà.
Mais après, c'est la vie, c'est normal. Mais c'est vrai
C'est
qu'eux,
la
ils étaient
vie.
plus.
Les amitiés ne
C'est
sont
la
pas
vie,
faites pour
voilà. Mais
durer.
oui, c'est la vie.
Voilà,
Eux, ils n'étaient pas encore
voilà,
arrivés de
à
tout
tous
ce qu'il y
les
avait pu
potes de
faire.
l'amiral qui écoutent ce podcast, voilà, l'heure est
Sachez que si un jour je vous plante un couteau dans le dos, c'est juste la vie. C'est pas personnel, d'accord? C'est le
Je te vois
business.
bien avec le couteau planté dans l'eau et c'est la vie. Il était en train de
That's
saigner et tout.
life, bitch. Non, mais là, c'est juste que, à mon avis, pour la Hybrid, ils n'étaient pas encore arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient faire dans la tag team. Au moins qu'ils aillent
C'est ça.
jusqu'à title match qu'ils n'ont jamais
Ouais.
eu, quoi.
C'est ça,
Donc,
c'est ça.
après, peut-être qu'on enterre cette équipe trop tôt et qu'il va y avoir la semaine prochaine une discussion et que Zack Ryder va faire ouais, non, d'accord, t'as raison.
Ah mais ils l'ont
Pour un
déjà fait
peu.
ça, ils l'ont déjà fait. Ils ont déjà fait le coup où t'en avais un des deux qui faisait la gueule et finalement ils sont restés potes. Bon. Bref, on a passé assez de temps sur les deux zigotos. Backstage, on a eu pas mal de petites séquences avec Kevin Owens. Rapidement, il y en a une avec Dan où justement il est avec un type qui passe par là, qui fait une checklist de toutes les nouveautés qu'il veut. Alors il veut une musique, une nouvelle musique, un jet privé, deux limos, une pour lui, une pour son pote. Comment il s'appelle? Je sais plus. Il balance un nom. Et il croise Sami Zayn. Et là, il y a une petite anecdote sympa. Il dit, tu te souviens qu'on galérait tous les deux pour aller catcher dans le Minnesota, je ne sais où, dans un coin paumé des États-Unis ou du Canada, avec devant 45 pécnos. Et on s'était promis, plus jamais ça, quoi, qu'on ira à la WWE. Plus jamais ça, hashtag. Et ben là, je vais posséder la WWE, alors tu vas pouvoir retourner à. Toi, tu vas pouvoir en fait, briser cette promesse. Je t'autorise à briser cette promesse qu'on s'était faite et à retourner catcher devant ces
Trop sympa.
voilà,
Un
devant tous
vrai
ces
pote, un
pecnos.
vrai pote, Kevin Owens.
Un vrai pote. C'est la seule apparition qu'on aura de Sami Zayn ce soir. Et une autre séquence backstage. Il croise Aiden English. Ça, c'était très drôle. Hein, Aiden English. Hein, et il lui offre la mission d'écrire justement le nouveau theme song. Et on a Aiden English qui pousse la chansonnette. Donc pour annoncer, pour voilà, proposer, faire un premier draft de ce que pourrait être le theme song
Kevin Owens Show.
du Kevin Owens Show. On retourne à notre sur le ring avec la troisième ceinture qui était défendue ce soir à Las Vegas. Natalia, notre championne vénérée, qui affronte Naomi pour son rematch. Pas d'entrée TV, hein, on n'a pas que ça à foutre. Au commentaire, Carmella, justement, qui tient James Ellsworth en laisse. Elle l'avait, alors c'était un jeu de mots Voilà, en anglais, Unleash, elle l'avait annoncé la semaine dernière, donc elle le fait littéralement, comme on dit. Elle le tient en laisse, il y a une espèce de laisse là autour du cou, en, je sais pas en quoi, en fourrure ou un truc du
Ouais, pour
genre.
les léopards, ouais,
Le
c'est
fourré léopard.
du plus bon goût. La
La
classe.
grande
La
classe.
classe à Vegas. Voilà.
Alors, ce match, bah, Naomi, il était pas mauvais, mais pas exceptionnel, comme on dit, hein. Naomi qui fait des glow things. Oui, hein, pour ce qu'on pouvait en espérer, je te vois faire la grimace. Natalia fait des, je sais pas comment on a, des native things ou des cat things. Ça fait, voilà, ils font leur truc, quoi. On arrive à la fin et le c'est quoi une espèce de moonsault, de Naomi, là, sur son turnbuckle à éviter. Natalia est éjectée à l'intérieur. Non. Natalia sort en fait à l'extérieur, je ne sais plus, elle se retrouve à l'extérieur, et du coup elle a une petite friction là, avec Carmela, hein,
Carmela,
évidemment, qui se rameute avec son toutou. Double saut carpé, Naomi sur les deux vilains. Natalia également en profite évidemment pour retourner sur le ring et placer un sharpshooter complètement dégueulasse, tordu à 20 cm des cordes, sans avoir travaillé vraiment Naomi au corps, plus que ça, surtout qu'elle a eu genre 1 minute, enfin pas 1 minute. Mais c'était pas instantané, quoi, donc l'abandon du babyface là, qui plaît tant à notre ami Ringside.
ouais.
Bon, voilà, on en a terminé de Naomi pour la title picture.
Ouais, je pense, hein.
Qu'est-ce que... Voilà.
Rien à déclarer,
Ah
monsieur
oui,
l'agent.
d'accord. Super, on va
Non.
pouvoir se consacrer
Pas
à...
personnellement, rien à dire.
Ouais, non, mais c'est ça. Hein. On va se consacrer, écoute, au main event et c'est triste,
Ouais.
mais bon. Kevin Owens qui est sur le ring et donc qui interpelle Vince McMahon à venir. La musique de Vince, No Chance in Hell, retentit. Ça faisait 4 ans. 4 ans qu'il avait pas mis les pieds à SmackDown, le CEO de la WWE. Il fait, alors, Vince, je peux t'appeler Vince Là, franchement, il devait jubiler hein, dans sa tête. Je pense, là, Kevin Owens, ça doit être un rêve de gamin qui se réalise. T'inquiète. Donc, il lui dit, bah voilà. Donc, il raconte tout son délire autour de. Attends, je sais plus exactement ce qu'il lui dit à
Owens,
Vince McMahon.
il dit ouais, je crois savoir ce que les autres superstars ont senti face à toi dans le ring.
Ah
Je
oui.
pense que t'es intimidé là, Vince.
Oui, il lui dit.
Normalement, Kevin Owens, il est genre, il est à la maison, c'est lui le patron, il a déjà gagné son procès dans sa tête. Et j'aime bien ce côté vachement délusionnel, quoi. Le mec, il se fait un rêve, quoi. Kevin Owens, il se fait un film dans la tronche. Même face à Vince, il est genre, ok, c'est bon, c'est bientôt chez moi, t'es intimidé.
Ouais, c'est ça. Bah, mais tu fais bien de le rappeler parce que j'avais trouvé ça excellent. Et après, bon, Vince McMahon lui dit, écoute, si Shane a été viré de son poste, c'était pas pour le punir, mais c'était pour qu'il puisse le boulot qu'il a pas terminé justement, enfin qu'il a commencé. Et puis là, alors Vince McMahon nous fait une tirade gore dont il est coutumier. Il dit, voilà, que ça va venir t'arracher les orteils. Des artères, les boyaux, te tirer la colonne vertébrale, te répandre tes couilles un peu partout sur le ring. Alors,
C'était très PG, très
ouais, très,
PG,
très PG.
nickel.
Bon, ça, c'est Vince, hein. On est période PG, mais quand il vient, lui, il se permet un peu tout.
C'est clair.
J'avais une image de Mortal Kombat avec le Fatality de Vince McMahon, quoi. C'est vraiment, tu vois, Vince McMahon et qui désosse, qui arrache les couilles et tout de son adversaire. Et puis il annonce, il fait, écoute, t'es gentil à Kevin Owens là, à vouloir faire des, m'envoyer devant le juge, mais bon, sache que moi j'ai jamais perdu aucune affaire. À chaque fois qu'on m'a porté devant les tribunaux, j'en suis ressorti vainqueur. Il y a un B-word qui est devant mon nom et c'est billionaire. Et toi, il va y avoir un B-word devant ton nom, ça va être bankruptcy quoi. Donc, grosso modo, il lui dit, t'es gentil, mais si tu t'envoies les avocats, moi je vais faire en sorte de tirer l'affaire tellement en longueur que ça va te ruiner financièrement. Alors, on voit comme Kevin Owens qui commence un petit peu à se dire, merde, j'ai peut-être fait une connerie. Au passage, c'est pas la première ni la dernière fois qu'un heel ou un face se retrouve dans cette situation-là. Les mecs, ils veulent attaquer la WWE en justice. Tu dis, les mecs, ils regardent pas le network, hein, parce que putain, c'est juste pas possible. On a vu, je crois, le Big Show il y a quelques années qui avait voulu nous faire un peu le même coup. On avance, et puis donc Vince McMahon lui dit qu'il est impatient de le virer, évidemment, hein, you're fired. Kevin Owens commence un petit peu à paniquer, il dit ok d'accord, et là tu as, pardon, Vince McMahon surtout qui officialise, pardon, le match, hein, avec... face à son fils dans un Hell in a Cell match, justement pour pouvoir mettre une grosse dérouillée à Kevin Owens. Ensuite, Kevin Owens sent que le vent tourne un petit peu, donc il dit une dernière carte à jouer visiblement. Il dit ok d'accord, mais si je vais dérouiller ton fils et promets-moi, il lui demande de faire une promesse qu'il le virera pas si il dérouille un mec Mahon qui met la main sur lui, grosso modo. Il joue un petit peu comme ça sur les mots, il me semble. Serrage de poing entre les deux. Donc Vince accepte. Il dit, grosso modo, oui, je te vire pas si tu fous la tannée un mec Mahon. Et là, la poignée de main dure un peu longtemps. Kevin Owens regarde Vince McMahon droit dans les yeux et le coup part. Un gros coup de boule dans la tronche. Vince McMahon s'écroule au sol, il a plus de 70 ans, hein, Vince McMahon. Le sang coule de son front, jaillit. Arrivé donc du corps arbitral, alors par petites gouttes, hein, ils arrivent, hein, t'as un arbitre, et puis après t'as un mec, voilà, du management, etc., qui arrive pour un petit peu raisonner Kevin Owens. Kevin Owens ne s'arrêtera pas là. Il va notamment, à un moment donné, il fait son, enfin, il commence à sortir du ring et puis il revient. Et il lui met un gros kick dans la
Ouais,
tronche,
un super kick,
un
hein,
super
boum.
kick pour l'étaler pour la deuxième fois. Puis il monte sur le turnbuckle pour lui placer un frog splash. Donc là, Vince, il déguste. Après, Kevin Owens donc, finit par partir. Sur la rampe, il croise Stephanie McMahon qui vient voir son papa et qui regarde Kevin Owens. Alors, elle l'engueule, mais pas trop. Elle lui dit retourne dans les vestiaires tout de suite. Voilà. Donc elle va au chevet de son papa. Vince qui arrive, qui veut pas monter sur la civière. Et pendant ce temps-là, sous les yeux, sous le regard complètement déconnecté de Kevin Owens, qui se rend compte de ce qu'il a fait, mais en même temps, voilà, il y a un excès de violence. Et il y a vraiment un jeu d'acteur là qui est vraiment qui est super. Et Kevin Owens, où tu sens vraiment qu'il est. Enfin, il sait qu'il a fait une connerie, mais en même temps, il voulait la faire, et c'est comme ça que se termine ce main event. Alors, qu'est-ce que tu as pensé
Oh, quel segment,
de ce
quel
segment?
segment. Alors déjà voilà, Vince qui débarque, 4 ans qui dépasse SmackDown, c'est un événement en soi. On sait que Vince, malgré tout ce qu'on peut reprocher par ailleurs, dans son rôle, il est très bien établi et généralement ça donne des trucs plutôt intéressants. Là, en face, il y a Kevin Owens qui est très bon au micro aussi, donc ça marche. L'annonce du match, on le savait, mais c'est pas grave, c'est le moment qui est intéressant, c'est pas ce qui en suit. Et ouais, cette espèce de moment où il lui fait promettre, donc on est d'accord, je peux tabasser à mort un McMahon et je serai pas viré, hein.
Ouais, est-ce
Et
que
là-dessus.
précise Guillaume sur le chat, c'est sans raison, il lui dit senseless.
Ouais, senseless, ouais.
Pour justement justifier le fait qu'il s'attaque à Vince.
Sans raison, et senseless, ça veut dire aussi genre vraiment à mort, quoi. C'est
Oui, sans
ah
m'arrêter
oui,
quoi.
beat you senseless, et voilà, c'est genre je vais te faire de toi de la pulpe. Hein. Donc du
La
coup, tu te dis,
pulpe.
mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas le frapper. Et là, le voir porter la main sur effectivement the chairman of the board, Vince, c'est énorme. Mais ce coup de boule où de suite vraiment on voit, il y a un gros plan sur la tête de Vince et on voit la fissure se créer en fait et le sang couler.
Bien
Et là,
sûr.
j'avoue que j'ai eu peur. Je me suis dit, oh putain,
C'était
sachant
legit,
qu'un
hein, comme ils
ah
disent.
ouais, mais là j'ai eu peur en fait pour qu'ils prennent de la hit en fait Owens backstage parce que on se rappelle qu'il y a Titus O'Neil qui s'était fait
Ah
genre
oui, mais.
suspendre un mois parce qu'il avait touché l'épaule de
Ah,
Vince
mais ça
lors
n'avait
d'un
rien à
segment à la
voir.
con. Ça n'avait rien à voir et je pense que Vince, ok, il sait qu'il y a un risque quand il va se prendre des coups. Mais quand même, tu vois, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que Vince Tout-Puissant va pas se dire ouais, ce Kevin Owens, il sait pas mettre un coup de boule sans mouvoir le front hein.
Moi,
J'espère,
connaissant
j'espère.
personnellement Vince McMahon, je pense qu'il
Ah,
a
ça va alors, je me rassure.
dans la gorilla position, il lui a dit vas-y, faut que ça paraisse réel, mets-moi un coup de boule. Enfin, après toi,
Ouais.
c'est genre, faut que tu me touches, quoi. Il faut que tu me touches,
Ouais,
il faut
parce
qu'il y ait
que
l'impact.
les deux n'ont pas de cheveux longs, tu vois. Moi, je peux faire semblant d'un coup de boule sans toucher la personne, c'est les cheveux qui vont. Ça marche. Mais là, Kevin Owens et Vince, c'est pas possible. Mais en tous les cas, c'était impressionnant, quoi. Ça donnait un côté encore plus violent au segment. En plus, derrière, Vince essaie de mettre une droite à Kevin qui bloque, il en met une. Il lui met un méchant coup de pied à terre au niveau des côtes. D'ailleurs, Vince, après, quand il sera raccompagné par Steph et les autres, dira: Ah, mes côtes, ça me fait mal. Donc, ouais, c'était sauvage. C'était sauvage. Et je suis content de voir Kevin Owens revenir sur un côté vraiment dangereux, implacable, un peu fou finalement de sa gimmick. Après avoir abandonné le New Face of America, on se posait la question, bah, quelle va être sa direction? Et je suis vraiment ravi de le revoir là-dedans. Et là, c'est un sacré, sacré aveu de confiance,
Ah bah oui.
je pense, de la part de WWE, que de le mettre dans le ring avec Vince, dans le main event d'un des plus gros SmackDown de l'année. Parce que c'est pas étonnant si Las Vegas, là, il y a tout ce décorum qui va avec, s'il y a effectivement tous ces matchs de championnat qui est Vince, parce que Las Vegas, c'est un putain d'enjeu, c'est une grosse salle. À Las Vegas, les gens vont voir des shows tous les soirs, vont voir des spectacles, et il y a plein de touristes de l'Amérique entière. Donc, les mecs, s'ils passent un bon moment ce soir, peut-être qu'ils vont parler. Donc, c'est vraiment pour ça qu'ils ont mis les petits papiers dans les grands. Donc, voilà, moi, j'ai adoré, quoi. C'est
Ouais, bah
génial.
on est à un tournant de la carrière de Kevin Owens probablement à ce moment-là. Hein. Comme tu le dis, Vince McMahon qui ne serait-ce qu'il fait le déplacement et qui vient s'offrir pardon à Kevin Owens, qui lui dans un spot où il prend des risques physiquement et pas juste un coup quoi.
Un frog splash, quoi.
Un frog
Frog
splash, le
splash.
mec, mais il a dû lui
Encore une
péter
fois,
trois côtes, hein.
le catch, il s'est chorégraphié, mais la gravité, quoi. Le poids de Kevin Owens qui saute à la troisième corde sur Vince qui a 70 balais au milieu du ring.
Non, non,
Wow.
c'est un gros tampon futur top star des 5 ou 10 prochaines années de la WWE qui vient de mettre Vince sur Kevin Owens,
C'est
hein.
clair. Là, c'est clair que Kevin Owens, si c'était déjà, si c'était pas clair pour tout le monde, c'est le
Oui.
top heel de SmackDown.
Aucun, encore il y a des gens qui en doutent que
Ouais.
Kevin Owens qui doit passer peut-être 3 semaines max sans ceinture, qui s'est déjà fait adouber par Triple H, qui est en rivalité avec Shane McMahon et qui a jamais fait de je sais même pas s'il était vraiment dans une espèce de enfin s'il était un peu dans la mid-card mais il a toujours été dans des grosses rivalités
Ouais, puis en plus, ce qui est énorme, c'est ça, on le voit bien en regardant l'excellent documentaire sur Kevin Owens de la WWE, hein, vraiment docu et assez sympa. Kevin Owens, son truc à lui, c'est qu'on lui a toujours dit que jamais il arriverait à la WWE parce qu'il n'a pas le physique et la gueule de ce que Vince recherche, justement. Il n'a pas le profil
Ouais.
du catcheur
Bah
de
d'ailleurs,
Vince.
Vince fait une petite remarque à ce sujet-là, en se
Ouais.
moquant un petit peu de son côté un petit peu enrobé, donc c'était bien
Carrément.
vu. Il joue le jeu aussi, toi, Vince. Il sait que les gens pensent ça de lui. Enfin, il le pense. Il a un idéal, Vince McMahon, de catcheur idéal, mais c'est un stratège aussi. Enfin,
C'est un
c'est
businessman,
un
hein.
businessman et il voit là tout le fric qu'il peut ramasser avec Kevin Owens. Donc, y a pas de doute là-dessus. Donc,
Non,
on a assisté vraiment là à un moment, à une milestone, comme on dit.
ouais, comme tu dis, je pense que ce moment-là pour Kevin Owens, après j'y serai pas, mais j'imagine, a dû être aussi fort que le moment où il gagne la ceinture universelle avec Triple H qui lui tend. Je pense que ça restera un
Ah
moment très fort pour lui. Hein.
ouais. Ah ouais. C'était quelle année? Ça c'était cette année Non,
Non,
c'était.
c'était l'année dernière.
Ah merde. Ça aurait été cette année s'il aurait fait les deux. La doublette triple, adoubée par Triple H et Vince McMahon dans la même année, je pense que là, le catcheur de l'année aurait été tout vu. Bon, et ben en tout cas, c'est comme ça que se terminait ce SmackDown et ce supplément. C'est l'heure du mot de la fin. Amiral, est-ce que tu peux nous partager, en toute honnêteté, hein, ton
Oui,
top, ton
je
flop
serais
et ta
honnête.
note?
Mon top, bah cette séquence-là, voilà, la séquence de fin. Hein. Désolé si je te le vole, mais on peut avoir le même. Hein. C'était juste
Oui,
génial.
on a le droit.
Voilà, mon flop, l'absence de Bobby Roode et ma note, malgré cette absence-là, un gros 4, un gros 4 parce que voilà, très gros segment, très bon match tag team. Il n'y avait pas grand-chose à acheter dans ce numéro de SmackDown, donc voilà.
Ouais, bah écoute, je te rejoins, mon top, c'est effectivement c'est Kevin Owens et Vince McMahon, voilà, cette scène finale. Au début, j'avais peur, hein, juste pour en venir juste 2 minutes là-dessus, j'avais peur en fait parce que Vince McMahon, ces temps-ci, vient sur le ring faire des promos, c'est dégueulasse en fait. On se souvient tous de son implication avec l'Undertaker. Rivalité Undertaker Shane, où il vient et dit ouais, Undertaker c'est ma bitch et tout ça. Oh là là,
C'était nul parce que l'histoire était bidon. Là, ce qui est marrant, c'est que c'est presque l'inverse. Ça reste un match Hell in a Cell avec son fils impliqué, mais jusque-là, il est parti pris de son fils et ça passe beaucoup mieux parce que ouais, c'est
Et toi, il
moins
commence à faire la même chose, un peu à descendre Kevin Owens, oh là là, sur quoi on va. Et en fait, il y a vraiment eu, ça a switché, et là, j'ai embarqué, et là, je me suis dit, ah ouais, ok, là, c'est la grosse validation. Donc, le même top. Et puis, bah, écoute, mon flop, qu'est-ce que ça peut être, mon flop? J'ai pas vraiment de flop. Ah, si, c'est Jinder Mahal, la séquence Jinder Mahal, là, c'était proprement dégueulasse avec Shinsuke Nakamura, les PowerPoint. C'est pas possible. Et ma note, eh ben, je vais mettre, écoute, hein, un 3, un 4 aussi, allez, allez, soyons généreux aujourd'hui. On a quand même eu du beau catch et on a eu des grosses séquences et c'était un numéro important. Ils ont fait honneur au prestige de Las Vegas. Donc c'était un super SmackDown Live. Catch up. Catch-up, catch-up, c'est toutes les semaines. On récap un Raw, SmackDown, les pay-per-view. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube pour la vidéo, mais également sur iTunes et PodCloud pour vous abonner en audio. Si vous préférez nous écouter en faisant vos courses, par exemple, ou en prenant un bon bain chaud, en écoutant la voix suave de l'amiral, voilà, avec de la mousse et tout, ça peut être sympa.
Détendez-vous.
Détendez-vous. Oh mon dieu. Sur Twitter, c'est CatchUpCDC. Sur Facebook, c'est CatchUpCDC. Catch-et-du-catch.com est le forum pour venir lire des chroniques de toute l'équipe. N'hésitez pas à commenter cet épisode hein, dans la section commentaires de la vidéo YouTube. Partagez, notez, mettez-nous des pouces. Dites-nous ce que vous avez aimé, votre top, votre flop et votre note. Amiral, encore merci. La semaine prochaine, c'est encore nous deux, je sais pas.
Et
Oui.
non, je crois que Giscard revient de vacances.
Merde, bah écoute, je vais faire changer.
Ça va lui faire plaisir. Oh
Je vais
merde.
changer la serrure, le verrou, je vais donner un double et puis on va rester juste toi et moi. Comme ça, on va voir s'il nous écoute en fait. On va voir s'il nous écoute, s'il dit quelque chose ou s'il va revenir là, tout guilleret. Bon, allez, rendez-vous la semaine prochaine. Salut!
Salut!
Bon allez, silence sur le plateau.